Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
3 heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bienvenue à tous. Les marchés financiers qui tergiversent un petit peu aujourd'hui, qui piétinent, des signes d'essoufflement puisque les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays d'Europe tendent à réaccélérer. On l'a vu hier en Espagne, mais tout à l'heure, ce sont les chiffres français qui ont montré une petite réaccélération de l'inflation, réaccélération qui pourrait plomber le comportement des consommateurs. On l'a aussi vu au quatrième trimestre en France, ce comportement des consommateurs se dégrader. Et donc, on va se demander tout au long de l'après-midi si, la BCE risque bel et bien de relever ses taux de 50 points de base, voire plus. On a une réaccélération de l'inflation, on le disait, en France et en Europe. Et deux, si l'on risque d'avoir une poursuite du ralentissement, peut-être vers la récession ou vers un PIB négatif en ce début 2023, si l'inflation continue durablement de réaccélérer, même à rythme faible. Cette question, on va la poser à nos experts tout au long de l'après-midi, mais c'est vrai qu'elle rogne un peu, elle tord un peu l'ambiance sur les marchés. Elle taraude en tout cas l'esprit des investisseurs, cette question. Et on a ce CAC 40 qui, après un méga mois de janvier, signe petite baisse vraiment extrêmement limitée. Et on est toujours sur ce mois de janvier record pour notre indice CAC 40. Au cœur de ces publications aussi qu'on va suivre aujourd'hui, des titres à ne pas rater, Spotify, General Motors, Chevron, on va en parler dans un instant, Stéphanie Collot, Aude Kersulec pour le détail de ces publications du jour aux États-Unis. Et puis Samsung a vu son bénéfice fortement baisser. Est-ce de mauvais augure pour les publications à venir des GAFAM? Cette question, on va se la poser puisque les GAFAM vont publier à partir de demain et surtout jeudi également. On rentrera vraiment dans le détail de ces publications pour vous aider à arbitrer, ajuster vos portefeuilles boursiers. On essaie de vous être les plus utiles, concrets possibles chaque après-midi sur BFM Business. Et puis on n'oublie pas les autres placements au-delà de la bourse. On parlera crypto à partir de 16h35. On parlera aussi dans quelques minutes du marché immobilier, des crédits notamment, si vous souhaitez emprunter. Demain aura lieu l'actualisation du taux d'usure, ce qui devrait refluidifier un petit peu le marché. On vous dira quel impact ça pourrait avoir sur vos conditions d'emprunt. On sera tout à l'heure dans un quart d'heure avec Olivier Landrevi, le président de CAFPI, l'un des premiers réseaux de courtiers en France. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pendant 3 heures et tout de suite Stéphanie donc nous rejoint, Stéphanie Collot, pour parcourir l'ensemble de l'actualité économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est l'économie européenne qui a ralenti au quatrième trimestre, mais qui échappe à la récession. Le PIB progresse de 0,1% contre une contraction initialement anticipée par Eurostat. Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance de la zone euro atteint 3,5%. En France, l'inflation accélère en janvier. Les prix progressent de 6% après 5,3% en décembre, selon une première estimation de l'INSEE. C'est tiré par une hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie. La deuxième journée de grève contre la réforme des retraites, le secteur de l'énergie est très touché. Les raffineries de Total Energy comptent entre 75 et 100% de grévistes. Les expéditions de pétrole sont interrompues. La production d'électricité, elle, a diminué de 3000 MW dans les centrales d'EDF et un nouvel appel à la grève a d'ores et déjà été lancé chez EDF du 6 au 8 février. Beaucoup de résultats d'entreprise. Aujourd'hui, on commence avec le profit record d'Exxon Mobil à près de 56 milliards de dollars pour l'année 2022. C'est grâce au bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et au tarissement de l'offre russe. De son côté, General Motors publie un bénéfice net en hausse de 15% au quatrième trimestre à 2 milliards de dollars. GM a été le plus grand vendeur d'automobiles aux États-Unis en 2022 avec plus de 2 millions de véhicules livrés. Le constructeur remonte ses prévisions pour cette année. UPS fait mieux que prévu au quatrième trimestre. Le bénéfice net atteint 3,5 milliards de dollars malgré un volume d'achat en baisse. Mais pour 2023, le groupe prévoit un chiffre d'affaires en dessous des attentes des analystes. Spotify creuse ses pertes en 2022 à 430 millions d'euros. Mais la plateforme dépasse désormais les 200 millions d'abonnés payants. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse de 18% à 3,2 milliards d'euros. La semaine dernière, la plateforme annonçait la suppression de 600 postes, soit 6% des effectifs. Ardian se renforce à l'international et s'implante aux Émirats Arabes Unis. Le plus gros fonds d'investissement français qui gère 140 milliards de dollars d'actifs ouvre un bureau à Abu Dhabi. C'est la première antenne du fonds au Moyen-Orient. Et puis un chiffre, 151 milliards d'euros, c'est ce que le plus gros fonds souverain du monde, celui de la Norvège, a perdu en 2022 en cause des mauvaises performances de marché provoquées par la guerre en Ukraine et la détérioration de l'économie mondiale, Guillaume.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Stéphanie. On va continuer de parcourir l'ensemble de l'actu du jour au rythme des marchés. Des clés pour vous permettre d'ajuster vos portefeuilles. En direct, on vous retrouve Aude Kersulec depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Aude, on est sur une après-midi assez tranquille sur l'indice CAC. Enfin, quand même une petite baisse.
Ouais, alors encore des mouvements très limités aujourd'hui, comme hier finalement. Alors c'est vrai qu'on est sur une petite baisse de 0,16% à 7070 points pour le CAC 40 et ça bouge pas beaucoup plus en Europe. Hein. Moins 0,09 sur le Eurostock 50, moins 0,2 sur le DAX. On continue sur une séance tranquille. Hier, on avait déjà marqué un repli avec notamment un recul de la tech hein, avant de nouvelles hausses de taux. Alors cela dit, il y a quand même une salve de résultats outre-Atlantique, notamment dans l'industrie. Ça bouge beaucoup en avant-bourse chez General Motors après un très bon quatrième trimestre et une très belle année 2023 anticipée. Ben, c'est un titre qui prend 5% actuellement. Mais sur les indices, sur les futurs sur indices, eh bien, ça reste extrêmement plat, ce qui nous laisse augurer qu'aujourd'hui, on ne sera pas non plus dans des grands mouvements. Pour rappel, c'est cet après-midi que commence le comité monétaire de la Réserve fédérale, mais il s'étend sur deux jours et on n'aura pas de décision connue avant demain soir, donc on a encore du chemin à combler d'ici là. En Europe, même si on a appris qu'on échappait à la récession en zone euro, on n'en est pas encore aux festivités. On attend de savoir aussi ce que vont nous réserver les banquiers centraux pour la BCE jeudi. On a l'industrie qui est en recul avec ArcelorMittal qui perd 2%, Saint-Gobain, Total Energy, Air Liquide en recul de un petit peu plus de 1,5%. Alors l'industrie, sauf le spécialiste du petit électroménager, c'est le groupe SEB qui publiait hier ses ventes pour l'année. Alors la baisse du chiffre d'affaires de 5% à paramètre constant, elle était anticipée et elle est confirmée. En revanche, SEB est confiant sur ses objectifs de l'année, notamment sa marge opérationnelle qui devrait se situer dans le haut de la fourchette de 7 à 7,5%. Et donc ça, c'est plutôt applaudi sur le marché puisque SEB prend 8% en tête du SBF 120, tout juste devant EuroAPI. EuroAPI avec cette nouvelle de la reprise de production dans une usine de Hongrie où la production de principes pharmaceutiques avait été suspendue pour cause de principes de précaution. Et bien sûr, cette nouvelle, on a EuroAPI qui remonte de 6,5% à 14,56€.
SEB et EuroAPI, les deux valeurs phares à la hausse de cette séance. On va en parler. Pierre Bouchny nous accompagne depuis les bureaux de Kepler Chevreux. Bonjour Pierre, on est ravis de vous retrouver. Et donc SEB aujourd'hui en tête du marché parisien. On en avait perdu l'habitude Pierre, plus 6% aujourd'hui ce titre SEB. SEB qui donc, on le disait, tente de sortir la tête de l'eau, qui nous annonce une baisse de chiffre d'affaires moindre qu'anticipée et qui confirme des objectifs de marge dans le haut de la fourchette pour l'année 2022. Est-ce qu'à votre avis désormais SEB est tiré d'affaires en bourse?
Alors effectivement, une séquence de communication pour SEB depuis 2 à 3 ans depuis Covid, pour faire simple, qui n'a pas été très très bonne. Hein, donc, il n'avait pas forcément la très bonne exposition par rapport à l'environnement économique. Et donc, effectivement, c'est le premier trimestre qui montre une amélioration. On est au-dessus du quatrième trimestre de 2019. Donc, on a redépassé les ventes avant Covid. Et la baisse de chiffre d'affaires de 6% sur des bases comparables est un peu au-dessus de ce que le marché attendait. Il y a un point d'écart. Donc, c'est pas énorme. Mais néanmoins, quand vous regardez les composantes de ce chiffre d'affaires, on a une très grosse croissance sur l'activité professionnelle. C'est moins mauvais que prévu en Amérique. C'est pas en croissance sur la Chine. Donc, il y a plutôt un momentum d'activité qui est en croissance. Et surtout, ce qui a rassuré, c'est le message sur la guidance de marge. Hein, donc, dans le haut de la fourchette, 7,5%. Et je crois que ça fait prendre conscience aux investisseurs que SEB est une une valeur intéressante, un play intéressant pour jouer la réouverture de la Chine, donc les bons chiffres de sa filiale chinoise support, et aussi un play désinflation dans la mesure où Seb avait beaucoup souffert de la hausse des matières premières, de la hausse des coûts de transport, notamment du fret maritime. Et normalement, tous ces éléments-là devraient se renverser à partir de maintenant. Donc, on est sur des niveaux de valorisation qui sont assez inférieurs aux références historiques. Et on devrait avoir un momentum de résultats qui devrait aller dans le bon sens. Je pense que c'est ce que le marché joue aujourd'hui.
Oui, cette hausse, 8% CEP, c'est bien. Ouais, aujourd'hui, en tout cas, ce titre en tête du marché parisien. À l'inverse, de l'autre côté de la côte, Pierre, on a un abaissement d'opinion sur FDJ qui pèse lourd. La Française des Jeux qui recule de 4%. Lanterne rouge du marché, HSBC passe de conserver à alléger. La réaction du marché est assez forte aujourd'hui quand même.
Oui, alors j'ai pas vu les raisons pour lesquelles nos collègues d'HSBC avaient fait ce mouvement. Nous, on n'est pas à l'achat sur la Française des Jeux, sur FDJ, même si effectivement on a une société qui a une très belle visibilité, qui a des relais de croissance maintenant bien identifiés, au-delà donc de l'activité de loterie qui reste et qui restera le cœur de l'activité, mais des relais de croissance sur les paris sportifs et puis quelques acquisitions dans le domaine des jeux de casino et des paris hippiques qui devraient leur permettre de tirer un peu la croissance, puisqu'effectivement la partie loterie est une activité assez mature. Néanmoins, un des drivers de la croissance de FDJ, ce sera la transformation de ce modèle vers un modèle de plus en plus digital, qui est plutôt relatif pour les marges, hein, puisque les paris digitaux, donc via Internet, sont une fois et demie à deux fois plus rentables que ceux qui passent par les buralistes. Et donc, il y a une sorte de pervasion, pour prendre un mot anglais, du digital, qui est plutôt positif pour les marges. Donc, effectivement, je dirais en fondamental, c'est une société qui semble intéressante. La raison pour laquelle on n'est pas à l'achat, et c'est peut-être pour ça que HSBC a revu un peu sa copie, c'est qu'il y a un risque qui se rapproche maintenant d'une décision donc du régulateur européen qui a donc lancé une investigation sur les conditions de rachat de la licence au moment de l'introduction en bourse de l'IPO, et donc FDJ avait racheté sa licence d'exclusivité pour la loterie en France sur 25 ans pour 380 millions et il y a eu des plaintes au niveau européen parce qu'il y a eu des opérations dans d'autres pays, notamment en Grèce, qui s'étaient faites sur des niveau beaucoup plus élevé. Et donc la question, c'est de savoir si ce montant était une forme d'aide d'État déguisée ou pas. Et il y a quand même un enjeu de possiblement d'un milliard et demi d'amende pour FDJ sur ce sujet. Donc ça peut aller jusqu'à 7-8 euros par action, avec sur 40 euros, c'est loin d'être négligeable.
Effectivement, cette épée de Damoclès qui demeure sur ce titre SEB, en tout cas aujourd'hui HSBC, abaisse, dégrade légèrement son conseil. Vous restez avec nous, Pierre. On va aussi parler du secteur bancaire grâce à Aude Kersulek. On vous rejoint, Aude, depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Secteur bancaire qui va peu à peu aussi commencer à publier en Europe. On a aujourd'hui un feu d'artifice pour entamer cette salve de publication.
Oui, coup d'envoi des résultats bancaires. On commence par la Suisse, UBS, qui publiait ce matin un bénéfice meilleur que prévu, notamment parce que la banque Helvète a bien baissé ses coûts. Elle a gagné sur ce trimestre 1,7 milliard de dollars, alors que le consensus en prévoyait 1,3 pour un bénéfice annuel qui est lui aussi au-dessus des attentes, à plus de 7,5 milliards de dollars. Pour autant, on a un titre qui baisse à la bourse du Zurich de quasiment 2% avec quelques prises de bénéfices. Mais si on va s'envoler, on va du côté de Milan avec UniCredit, alors là qui faisait mieux que les attentes, un bénéfice qui a triplé en 2022 grâce à la hausse des taux d'intérêt. UniCredit qui a gagné 6,5 milliards d'euros. Alors en plus, UniCredit a annoncé qu'il allait faire plaisir aux actionnaires en reversant des dividendes et puis des rachats d'actions. Le titre qui s'envole de 11%. Donc à Milan, 17,67 €. Alors c'est vrai que ça pousse Société Générale quand même, qui est actuellement en tête du CAC 40, qui prend plus de 2%. Société Générale qui publiera le 8 février, BNP Paribas le 7, et puis Crédit Agricole, ce sera le 9 février, en même temps que Crédit Suisse, qui sera aussi un gros morceau attendu par le secteur. Voilà, il faut encore un petit peu attendre pour nos banques françaises.
Pierre, ce secteur bancaire, alors que les publications ne font que démarrer, mais démarrer par ce record pour UniCredit, est-ce que vous êtes confiant pour le secteur en Europe ?
Alors globalement, c'est une assez forte conviction en fait les banques pour nous en ce moment, parce que c'est que les banques, c'est deux choses, c'est des taux d'intérêt, et quand les taux remontent, c'est positif pour les résultats des banques puisqu'elles sont moins contraintes sur les liquidités qu'elles mettent à disposition de la BCE. Et puis c'est une exposition à l'économie. L'effet de taux d'intérêt, il n'a pas disparu, il est toujours là et il sera sans doute assez fort. Et sur l'économie, on a le sentiment aujourd'hui que l'environnement sera quand même moins difficile que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois en 2023. Donc, quelque part, le moteur de la création de richesses et des résultats des banques sera sans doute là en 2023. Effectivement, ces premiers résultats sont plutôt de bon augure sur un secteur qui est toujours pas très aimé des investisseurs, donc pas très chèrement valorisé, qui a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'atouts en ce moment en termes d'investissement.
Effectivement, puisqu'on semble en mesure d'éviter une récession en zone euro, c'est plutôt bon pour limiter les créances douteuses ou trop douteuses des banques. Voilà, on a les taux d'intérêt qui continuent de monter. Donc ce secteur, c'est vrai que pas mal d'intervenants continuent de recommander. Merci Pierre. Pierre Bouchny, Kepler Chevreux, régulièrement à nos côtés. Bonne séance Pierre. Aude, on vous retrouvera aussi tout à l'heure à 16h pour le suivi de la tendance en Europe. À tout à l'heure, donc depuis la tour Euronext, et ce CAC 40 qui a maintenant un quart d'heure de l'ouverture de Wall Street, recule à peine, -0,17%, 7070 points.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
Et Christopher Demic nous accompagne, directeur de la recherche macroéconomique pour Saxo Bank. Bonjour Christopher.
Bonjour.
On va parler dans un instant de l'inflation qui réaccélère un peu en France, comme on l'avait vu aussi hier en Espagne. D'abord quand même les bonnes nouvelles du jour. Le FMI relève un petit peu sa prévision de croissance mondiale pour cette année. La Chine, elle, voit ses indicateurs d'activité, les PMI officiels, repasser au-dessus des 50 pour la première fois en 4 mois. Est-ce qu'on est toujours sur le front des perspectives économiques, Christopher, en mode soulagement?
Oui, toujours en mode soulagement, mais peut-être aussi parce que fondamentalement, fin 2023, une majorité du marché économique, analyste, etc., était outrancièrement négatif. Vous en souvenez, le débat, c'était à quel point va être la récession. Pas est-ce qu'il y aura ou pas récession, mais à quel point elle sera. La réalité, c'est qu'on avait quand même plutôt quelques éléments avancés qui laissaient à penser que ça n'aurait pas été aussi négatif que cela. C'est confirmé aujourd'hui. Effectivement, tous les indicateurs qui tombent, même des indicateurs avancés, le PIB français, les PIB qu'on a eu aussi pour les États-Unis et maintes autres indicateurs, nous montrent bien que l'économie est plus résiliente que prévu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches de fragilité. Hein. Si vous regardez l'indice de confiance des ménages en France, de l'INSEE qui a été publié la semaine dernière, c'était plutôt assez dramatique. Mais pour autant, il y a aussi une énorme résilience du côté de l'entreprise qui s'ajuste, qui font face à la hausse des prix. Donc, c'est plutôt positif. De mon côté, je pense qu'on aura une année qui sera pas très mauvaise. C'est une année de fin de cycle. On a eu 2020-2021 de fortes mesures de stimulus. Même 2022, on a bénéficié de ces mesures. 2023, il y a moins de mesures. Ça commence à s'épuiser. C'est la fin de la comète, en quelque sorte. Donc, pas de récession pour autant, mais plutôt un contexte assez favorable. Et bien sûr, l'incertitude, entre guillemets, c'est quelle sera l'ampleur de la relance chinoise, et nous on pourra en bénéficier au deuxième semestre. Donc c'est surtout le grand jeu pour nous en 2023.
On évitera la récession aussi ici en zone euro. On a vu le PIB du quatrième trimestre en zone euro qu'on attendait négatif, finalement il est légèrement positif, Christopher, +0,1%.
Alors je pense qu'on aurait pu, alors le marché a mis un certain temps à réviser ses prévisions de croissance pour la zone euro, puisque c'est tout début janvier qu'on est sorti progressivement le consensus de la récession pour la zone euro en 2023. Mais la réalité, c'est que dès fin novembre, on avait des éléments qui nous disaient ça devrait résister. Parce que foncièrement, le paradigme, enfin l'idée originelle derrière le fait qu'on ait une récession en zone euro, c'était de se dire qu'on avait une grave crise énergétique. La réalité, c'est qu'elle est dommageable, certes, mais elle n'est pas aussi grave qu'on l'anticipait. Donc, pas de récession très clairement en zone euro. Sur un horizon un an, on va dire, ça me paraît assez peu probable. Sachant que l'Allemagne et la France montrent des signaux de résilience assez élevés, donc après, c'est assez dur d'avoir une récession. La seule zone en Europe qui est problématique, c'est le Royaume-Uni, mais c'est un cas qui est vraiment à part, effectivement, sur la récession.
Royaume-Uni, pour lequel, pour le coup, on attend une récession et un PIB cette année en baisse de 0,6% à peu près, hein, c'est le consensus pour le Royaume-Uni en 2023.
L'enjeu va être à quel point la Banque d'Angleterre considère qu'on va être sur une récession aussi longue qu'au début des années 90. Donc c'est ça qui va être assez problématique, mais c'est un cas qui est complètement à part. Vous ajoutez le Brexit, vous ajoutez une crise énergétique qui est sans précédent, donc c'est un épiphénomène.
Sauf qu'on a un petit souci quand même en zone euro, c'est que l'inflation réaccélère légèrement, Christopher. On l'a vu hier en Espagne, on le voit aussi en France avec les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Est-ce que ça va encourager la BCE à relever ses taux jeudi de 50 points de base, voire peut-être plus ?
Alors non, plus ça va être compliqué. Je pense que 50 points de base, c'est bien pricé. L'enjeu, c'est quelle va être la suite. Je pense pas que Lagarde ait une nécessité d'être extrêmement limpide sur la suite. Je pense qu'elle aura à peu près le même discours qu'en décembre, c'est-à-dire qu'on va rester sur un ton qui est un peu au quiche. Et point qui est important sur l'inflation, alors on a beaucoup critiqué, moi-même d'ailleurs, le manque de lucidité de la BCE initialement sur la durée de l'inflation, mais en tout cas là ils ont eu juste parce que souvenez-vous, en fin 2022, on avait plusieurs membres du Conseil des gouverneurs qui nous disaient on peut avoir une réaccélération de l'inflation en tout début d'année prochaine, et effectivement c'est ce qu'on constate, et c'était bien mis en avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut être toujours extrêmement ferme sur la lutte contre l'inflation, ça veut dire des hausses de taux en zone euro. Il y a la latitude en plus supplémentaire avec l'absence de récession. Il n'y a pas un enjeu comme pour la Banque d'Angleterre où est-ce qu'on la tranche plus en faveur de la croissance ou en tout cas de la relance que du côté de l'inflation. Il n'y a pas de sujet, donc ça permet d'être très ferme sur la hausse de taux.
Merci Christopher Dembick en direct avec nous depuis Saxo Bank à 2 jours de la décision politique monétaire de la BCE. Demain, ce sera la Fed qui annoncera son choix. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, bien sûr, vous pouvez nous les envoyer. Vous le savez, en scannant, en flashant le QR code qui apparaît sur votre écran. Là, en direct, on l'aperçoit. Tiens, si vous suivez sur l'application BFM Business ou encore à la télévision, il suffit de le flasher pour nous envoyer votre question et tout à l'heure, votre ou vos questions trouveront leur réponse. Ce sera après 18h. Amaury de Tonquédec et son expert pour tenter d'apporter, oui, des réponses, des solutions à vos interrogations en matière patrimoniale, d'investissement en bourse. Ces questions que vous nous envoyez donc en flashant ce QR code ou encore par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. N'hésitez pas, donc ce sera tout à l'heure sur les plateformes digitales BFM Bourse et BFM Business.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
Chaque jour, votre agence immobilière, en effet, aux alentours de 15h20. Et demain, tiens, 1er février, le taux d'usure sera actualisé et relevé en ce 1er février. Olivier Landrevi vient de nous rejoindre, le président de CAFPI, l'un des premiers réseaux de courtiers en France. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va parler dans un instant de cette première actualisation du taux d'usure à rythme mensuel. Ça démarre donc demain, 1er février. D'abord, l'Observatoire Crédit Logement a publié, il y a quelques jours, des chiffres qui montrent que la production de crédit immobilier a chuté en 2022 de 20% et au quatrième trimestre même de 44%. Là, on peut parler d'un choc historique.
Oui, ce sont indiscutablement de mauvais chiffres. Et il faut effectivement insister sur la violence du choc quand on le met en perspective historique. Pour mémoire, si on regardait les variations trimestrielles, au moment du premier confinement en 2020, on a une baisse de la production de crédit immobilier de 10%. Et si on remonte plus loin dans le temps, au moment de la grande crise financière de 2008, juste après la faillite de Lehman Brothers, on a un recul de 17%. Donc là, à 44%, on est bien au-delà du double en termes de violence de choc. Il faut bien voir que ces chiffres, ils s'expliquent par deux phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est très classique et qu'on observe partout en Europe, qui est que quand les taux montent, la demande de crédit baisse, puisqu'après tout, le taux, c'est le prix. Et comme pour n'importe quel produit, quand le prix monte, la demande s'ajuste à la baisse. Jusque-là, rien que de très classique. Mais on a ensuite un deuxième phénomène qui, lui, est absolument franco-français, qui est cette difficulté de retard d'ajustement du taux d'usure, et qui a mis, depuis l'été dernier, les banques dans une situation où elles ne pouvaient plus répercuter la hausse de leurs coûts de refinancement dans les taux de crédit, si bien qu'elles ont été progressivement écœurées d'octroyer des crédits. C'est ça qui est arrivé au quatrième trimestre.
Et donc, bonne nouvelle quand même, la Banque de France consent désormais à titre temporaire une mise à jour mensuelle du taux d'usure. Ce sera le cas en ce 1er février, la première actualisation mensuelle du taux d'usure. Est-ce que ça va solutionner ce phénomène de baisse, de forte baisse des volumes de crédit, d'après vous?
Alors d'abord, saluons une mesure de bon sens, qui est bienvenue évidemment, même si elle est plus que tardive, hein, puisque les professionnels du secteur alertaient depuis le printemps dernier sur les difficultés posées par ces retards d'ajustement.
Et on se souvient, le gouverneur de la Banque de France, sur ce plateau même, sur BFM Business, expliquait qu'il n'y avait pas de problème avec le taux d'usure. C'était il y a quelques mois à peine.
Ouais. Et c'est une mesure qui, oui, est de nature à redonner une certaine fluidité au marché et surtout qui devrait permettre de sortir du stop and go dans lequel nous étions depuis juillet dernier. C'est-à-dire que on voyait un cycle trimestriel par lequel, en tout début de trimestre, peu après l'ajustement du taux d'usure, on avait des banques qui étaient prêtes à financer. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait dans le trimestre et que leurs coûts de refinancement augmentaient sans qu'elles puissent les répercuter, on voyait les banques qui se retiraient progressivement du marché, si bien qu'il devenait quasiment impossible de faire passer des projets en fin de trimestre. Donc ça devrait s'améliorer de façon notable.
Et l'actualisation prévue ce 1er février, donc 3,79 hein, pour les crédits de 20 ans et plus, elle vous semble suffisante
Le mois qui vient, oui, je pense que ça permet de remettre de la fluidité. Ensuite, évidemment...
Est-ce qu'il faudrait distinguer peut-être entre les durées 20 ans, 25 ans, le taux n'est pas le même, donc le rapport au taux d'usure aussi doit peut-être être davantage affiné, ajusté?
Sans doute, ça aiderait. Je pense qu'un autre chantier serait aussi de s'assurer que la Banque de France fonde ce calcul sur des chiffres qui sont eux-mêmes des chiffres frais et représentatif du marché, ce sur quoi on peut avoir un doute, puisque la Banque de France affirmait encore que sur le mois de décembre, on pouvait se financer à 2%, ce qui n'est absolument plus le cas depuis bien longtemps maintenant.
Donc vous dites qu'elle n'a pas les bons instruments, elle n'a pas les bonnes
choses. Je pense qu'elle a un temps de retard d'environ 3 mois du fait de sa tuyauterie statistique qui mériterait d'être dépoussiérée, disons.
Du coup, comment est-ce que vous voyez l'année pour le marché immobilier, le marché du crédit, l'évolution à venir des taux, du coup des volumes, des prix aussi, qui finiront peut-être par craquer, c'est la grande interrogation. Est-ce que les prix vont devoir s'ajuster fortement à la baisse pour permettre à la demande quand même de trouver chaussures à son pied?
Alors tout n'est pas noir, on a quand même une bonne nouvelle, c'est que depuis la deuxième moitié du mois d'octobre, on a des taux longs, des coûts de refinancement bancaire qui sont maintenant stabilisés. C'est important. Ça veut dire qu'on a peut-être atteint le point haut pour ce cycle sur les taux longs. Alors bien sûr, hein, on est d'accord, les taux directeurs de la BCE vont continuer à monter encore dans quelques jours, très certainement, mais on peut penser que c'est déjà intégré dans les taux longs. Donc on a peut-être atteint le point haut en termes de taux longs. Maintenant, si on transpose ça sur la question des taux de crédit, il faut bien se représenter que les taux de crédit ont accumulé en France beaucoup de retard par rapport au taux de marché. Donc ce retard, il va devoir être rattrapé. Donc il est à peu près inévitable que dans les mois qui viennent, on ait encore devant nous une poursuite de la hausse des taux de crédit. Au mois de janvier, chez CAFPI, on finançait nos clients en moyenne sur 25 ans à 2,75. Je pense qu'on va continuer à avoir une hausse d'environ 20 centimes tous les mois, jusqu'à ce que les taux atteignent et se stabilisent, je l'espère, autour de 3,50 ou peut-être légèrement au-dessus de 3,50 à l'horizon, je dirais, du mois de juin.
Ce serait le plafond, à peu près.
Si les conditions de marché restaient ce qu'elles sont, donc sauf résurgence de l'inflation, on peut penser que ce sera le plafond.
Ça reste assez bas d'ailleurs.
Ça reste très raisonnable sur
par rapport à l'inflation, ce sont même des taux d'emprunt négatifs.
Et relatifs à l'inflation, ce sont des taux réels négatifs. Vous avez absolument raison de le rappeler. Maintenant, on peut pas occulter malgré tout que emprunter à 3,5 à un taux de 3,50, ce sont des mensualités 20% supérieures à ce qu'elles auraient été. À ce qu'elles étaient il y a seulement un an quand on pouvait emprunter à 1%. Donc c'est quand même une contraction du pouvoir d'achat immobilier pour les Français qui est absolument indéniable. Ensuite, il y a un autre phénomène dont on parle moins, c'est que l'offre de crédit elle-même va rester sous contrainte au moins pour les mois qui viennent. Parce que les banques européennes, et notamment les banques françaises, doivent rembourser d'ici au mois de juin des montants très important de refinancement qui leur ont été octroyés par la BCE au moment du premier confinement et de la pandémie et qui avaient permis de financer les entreprises. C'était des lignes à 3 ans qui sont donc remboursables d'ici au mois de juin. Ça représente 350 milliards à rembourser pour les banques françaises. Donc on peut penser que d'ici là, elles vont rester prudentes sur l'octroi de nouveaux crédits.
Malgré l'actualisation du taux d'usure.
Voilà. Ouais. Et en revanche, elles vont vouloir accélérer sur la collecte d'épargne. Et ça, c'est une bonne nouvelle si vous avez de l'argent à placer.
Bon. Et les prix vont baisser ou pas? Il nous reste 10 secondes. Oui, non.
Je pense qu'on aura une correction modeste. Je ne crois pas à la possibilité de l'effondrement. Je pense qu'on rejouera ce qu'on a connu en 2008-2009, c'est-à-dire une baisse des volumes de transactions assez marquée, mais en revanche, une correction qui pourrait être de l'ordre de 5 à 10%, mais sans doute pas beaucoup plus.
Merci d'être passé nous voir. Le président de CAFPI avec nous aujourd'hui en direct, Olivier Landrevi, alors que demain, donc, on entrera dans ce nouveau taux d'usure qui sera actualisé pour la première fois mensuellement. Merci beaucoup. Bon retour. Dans un instant, on sera à New York. Les futurs américains orientés dans le vert. Légère hausse attendue à Wall Street pour l'ouverture. On va rejoindre sur place Sabrina Qualiozzi. Ce sera dans, 1 minute 30, juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
On est ensemble en direct et Wall Street vient d'ouvrir. Direction, la cloche retentit, direction New York. C'est là-bas que ça se passe, en direct. Bonjour, Sabrina Qualiozzi, en direct, notre correspondante permanente de BFM Business.
Bonjour.
Comment se passe, Sabrina? Ces tout premiers échanges.
Écoutez, c'est le vert qui l'emporte ce matin pour la... dernière séance du mois de janvier, Guillaume, un mois de janvier solide puisque le S&P 500 est bien parti pour enregistrer son meilleur mois de janvier depuis 2019 avec un gain de pratiquement 5% sur l'ensemble de ce mois de janvier. Belle performance malgré tout ce que l'on sait, malgré des inquiétudes sur l'économie, la politique monétaire, la réserve fédérale américaine, des résultats d'entreprises mitigés, malgré tout, ce marché, ces investisseurs ont fait grimper les indices, espérant un atterrissage en douceur de l'économie américaine, de l'économie mondiale. C'est le FMI qui a relevé ses prévisions de croissance pour cette année, alors que démarre, bien sûr, aujourd'hui la réunion de la réserve fédérale américaine. Oui, la Fed, qui devra annoncer demain une hausse de ces taux, 25 points de base, c'est ce qu'attend le marché. Un marché qui attend aussi, bien sûr, des prévisions pour la suite dans ce contexte bien particulier. Un marché donc qui ouvre ce matin sur une note positive, en tout cas pour le Nasdaq, c'est un gain de 0,4%, 11 434 points ce matin à l'ouverture. Le S&P 500, plus 0,25%, 4 027 points. Quant au Dow Jones, un peu plus hésitant, plus 0,07%, 33 741 points ce matin à l'ouverture, avec du côté de l'obligataire une petite détente. On est à 3,5 sur le 10 ans américain. Le pétrole, lui, est en légère baisse de nouveau, moins 0,3%, $77.65, Guillaume.
Des larmes de dollars. On a une pluie de publications aujourd'hui à nouveau chez vous aux États-Unis, Sabrina.
Ah oui, c'est très 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 chargé hein, dans des secteurs bien différents. On notera la très belle performance, Guillaume, pour General Motors, qui fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé, et de beaucoup un signe que le secteur automobile est de retour, se normalise après un contexte bien particulier pour ce secteur automobile, marqué par une forte demande et pas assez de véhicules. Enfin bref, ça va beaucoup mieux. C'est une belle hausse donc pour ce titre General Motors, avec des prévisions qui sont également optimistes. General Motors qui grimpe de 6,3% ce matin à l'ouverture, $38.58. Les autres publications, vous avez McDonald's également qui a publié ses résultats trimestriels, comme Walmart. La chaîne prospère dans cet environnement compliqué, avec des chiffres qui sont sortis au-dessus des attentes sur le trimestre écoulé pour McDonald's, avec malgré tout la direction qui s'attend à ce que les pressions inflationnistes persistent cette année. Réaction sur le titre McDo, moins 1,7%, $266.40 ce matin à l'ouverture. On a également, parmi les autres publications, UPS qui prend 2,8% après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Exxon, le géant pétrolier, a fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Le titre que l'on surveille ce matin, bien sûr, rappelons que n'en profite pas vraiment. Rappelons que c'est quand même un titre qui a grimpé de 80% sur l'année passée. Et puis, dans la pharma, Pfizer a également publié ses résultats trimestriels. Il s'attend des ventes en baisse de 33% cette année, après une année record sur 2022. Pfizer, moins 0,11% ce matin à l'ouverture, dans une tendance donc globalement positive à Wall Street pour cette dernière séance de l'année. Le S&P 500, qui devrait enregistrer donc son meilleur mois de janvier depuis 2019, prend 0,16%, 4022 points. Le Nasdaq, 0,33%, et le Dow Jones à la traîne, moins 0,13% pour l'indice à 33 674 points. Guillaume.
Merci Sabrina, vous nous accompagnez bien sûr tout au long de cette séance américaine sur BFM Business. On vous retrouvera tout à l'heure depuis New York. Le CAC 40 est toujours en toute petite baisse après cette ouverture américaine en hausse, moins 0,29 sur le CAC qui continue de respirer un tout petit peu. Après, ici aussi, un incroyable mois de janvier. Le CAC 40 sur le mois de janvier gagne plus de 8,5%. Pour l'instant, sur le CAC, c'est le meilleur mois de janvier de l'histoire. Depuis la création du CAC 40, on est à 7081 points sur le CAC en ce moment. Notez dans quelques minutes, valeur ajoutée, ce sera dans une grosse dizaine de minutes, une idée de valeur si vous souhaitez compléter ou diversifier vos portefeuilles boursiers. On parlera notamment de Biocorp, sur laquelle notre expert du jour est à l'achat. Ce sera donc dans quelques instants. D'ici là, bien sûr, on va mesurer ce que les marchés ont encore dans le ventre.
BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché.
Avec Aymeric Didet, il vient de nous rejoindre, directeur de la gestion de Pergam. Bonjour Aymeric.
Bonjour Guillaume.
Bon, les publications avancent encore aux États-Unis. On voit que c'est plutôt pas mal aujourd'hui. On a plutôt une réaction favorable des indices américains. Ici en Europe, on reprend un tout petit peu d'air et de souffle après l'incroyable mois de janvier qui... Alors traditionnellement sur les marchés, lorsque le mois de janvier est positif, c'est prédictif pour la suite de l'année. Ça nous promet 89% du temps une hausse, et une hausse aux États-Unis de plus de 20% quand le mois de janvier est positif sur le S&P. Là, il l'est largement. Donc on aurait une grosse probabilité de voir un S&P en hausse sur l'ensemble de 2023 de 20%. Vous y croyez ?
C'est génial les stats. Ça, on leur fait dire beaucoup de choses. Il vaut mieux aller se concentrer un tout petit peu sur le fondamental pour le coup, et regarder pourquoi le marché a monté et quelles sont les perspectives. C'est plus quelque part plus valorisant plutôt que de se baser sur des statistiques passées dont on a évidemment aucune prédictivité.
Passez votre tour sur les statistiques. Mais quand vous regardez les publications des entreprises, est-ce que vous vous dites que pour le coup en janvier les marchés sont montés trop vite, trop fort, parce qu'on voit ces publications, alors certes comme d'habitude souvent supérieures aux attentes, mais quand même qui marquent un net ralentissement des performances des entreprises, alors que les marchés eux ont cartonné, se sont envolés à la hausse. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de dichotomie quand même?
Alors il y a plusieurs choses à voir qui sont quand même assez fondamental. C'est-à-dire qu'on a un marché européen et français particulièrement qui a monté très vite, très fort, qui est assez différent de ce qui s'est passé sur d'autres marchés. On le voit, par exemple, vous prenez l'Angleterre, la Suisse ou les États-Unis, les marchés sont plutôt en hausse de 4, 5, 6%, mais pas 8 ou 9 comme le marché français. Donc, dans l'ensemble général du marché, on a une hausse de 4 à 5% en moyenne sur les marchés actions. Donc là, on a plusieurs phénomènes qui expliquent cette hausse. Parce que, un, déjà, les marchés avaient mal fini l'année. Donc, on a un rebond technique, déjà, qui explique une partie du début janvier de la première phase de hausse. La deuxième, elle est parce qu'il y a des éléments fondamentaux qui justifient cette hausse. Ça, c'est vraiment important de le dire, parce que la réouverture de la Chine, ça donne une bouffée d'oxygène au marché. Ça, c'est important. La baisse du prix de l'énergie, les perspectives d'inflation, de croissance, sont aujourd'hui des chiffres qui parlent réellement pour justifier la hausse de ce marché. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui se poser comme question, c'est oui, ça a monté très vite, très fort, en effet, en France notamment, mais est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça va durer? Donc là, c'est là où la gestion devient quelque part un peu plus intéressante, et de voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des secteurs qui sont structurellement positif, avec des bonnes tendances quand les taux montent et les taux sont plus élevés. Je pense aux financières, donc là il y a encore une justification et des valorisations qui pleinement justifient d'être pondérés sur ces secteurs-là. Ça, c'est vraiment un secteur qui, aujourd'hui, doit avoir sa place dans l'allocation d'actifs.
Et on voit aujourd'hui une publication record dans l'univers bancaire, celle d'UniCredit, qui porte tout le secteur.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment la démonstration aujourd'hui qu'il faut avoir une pondération importante sur ces actifs que sont les banques et les assureurs, parce qu'il y a un environnement de taux qui justifie une amélioration des profits de ces sociétés-là. Donc ça, c'est un secteur important. Après, on regarde un petit peu les publications les unes après les autres, les secteurs après les secteurs. On voit aux États-Unis encore aujourd'hui très bonnes publications sur le secteur automobile. tiens, c'est bizarre, c'est un secteur qui est extrêmement peu cher en Europe, bien représenté, parce qu'on a beaucoup de constructeurs en Europe, constructeurs automobiles, et qui aujourd'hui publient bien aux États-Unis, ont totalement changé ces dernières années, ont des niveaux de marge qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec ceux qu'ils avaient il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est un deuxième secteur sur lequel on se dit on pourrait avoir de très bonnes surprises. On va en mettre aussi en portefeuille. On a la chance en France, en plus, on a Renault, on a Stellantis, on a des constructeurs pan-européens aussi avec Volkswagen qui est un constructeur mondial. On a Porsche aujourd'hui qui est maintenant coté en bourse. Donc on a pléthore d'acteurs avec, et je vous passe tous les équipementiers, des forestiers en passant par les autres. Mais là, on a un deuxième secteur sur lequel on peut être pondéré. Donc ça, ce sont des secteurs sur lesquels il y a vraiment du potentiel. Et après, on peut se poser la question, évidemment, des secteurs qui ont beaucoup alimenté la hausse. Je pense au secteur du luxe, qui aujourd'hui est cher, valorisé, mais offre des perspectives de croissance qui sont toujours incroyables. Donc là, c'est des secteurs qu'on ne surpondère plus et qu'au contraire, on garde en portefeuille, mais on commence à sous-pondérer un tout petit peu le poids du secteur du luxe à l'intérieur des comptes. Donc voilà, il y a pas mal d'arbitrage à faire, mais par contre, on va regarder le côté éco pour regarder s'il faut rester investi ou pas, et c'est là où on va avoir pas mal d'indications cette semaine.
Exactement, beaucoup de grands rendez-vous, les banques centrales, bien évidemment, on en parlera beaucoup demain avec la Fed et jeudi la Banque Centrale Européenne, on aura aussi vendredi le rapport sur l'emploi aux États-Unis, mais l'inflation réaccélère quand même en zone euro. On a eu des, alors pas beaucoup, mais quand même, on a une inversion de tendance, on était sur un ralentissement, puis ça réaccélère un peu, on l'a vu hier en Espagne, on l'a vu aujourd'hui avec les chiffres de l'INSEE pour ce qui concerne la France, on attend donc une hausse de taux assez costaud, 50 points de base jeudi de la part de la BCE. Est-ce que si l'inflation continue de réaccélérer ou a du mal à vraiment ralentir, si elle reste sur un plateau en quelque sorte en Europe, est-ce que ça risque de vraiment miner dans la durée le moral des consommateurs et donc de forcer un certain nombre d'entreprises à baisser leurs tarifs pour préserver leur part de marché? Est-ce que c'est ça le prochain enjeu pour les entreprises?
C'est toute la problématique qu'on a en Europe, c'est que malheureusement on a une Banque Centrale Européenne qui a été beaucoup trop lente à la réaction, qui a fait pour moi des erreurs de politique monétaire par rapport à la Banque Centrale Américaine qui a réagi vite et fort, où aujourd'hui ils ont des taux qui sont largement plus hauts que l'Europe, et aujourd'hui on en paye le prix quelque part en Europe avec cette inflation. C'est sûr que c'est pas une ligne droite, malheureusement, sur la baisse de l'inflation, on a des petits heurts. On espère que ce ne sont que des petites hausses que l'on connaît encore aujourd'hui et que la tendance reste quand même baissière sur l'inflation. Et on va avoir du coup une réaction forte de la Banque Centrale Européenne. On devrait avoir en tout cas un message assez fort.
Les marchés sont prêts, c'est 50 points de base, c'est dans les cours.
C'est clair. Aujourd'hui, c'est acté par les marchés, mais surtout, c'est le discours qui va accompagner cette hausse pour savoir la next step, la prochaine étape. Est-ce que ça va être de nouveau un discours extrêmement ferme, extrêmement vigoureux sur l'intensité, sur la rapidité de la prochaine hausse et sur finalement le rythme que cela va prendre sur les prochains mois et prochains trimestres. C'est ça qu'on cherche à savoir aujourd'hui. L'acte aujourd'hui de la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, il est quasiment acté, prédit par les anticipations.
Mais elle a de bonnes raisons, Christine Lagarde, de se lâcher, de se montrer faucon. Je dis, on a cette inflation qui réaccélère un peu, les marchés qui se sont envolés.
On ne peut pas avoir un autre discours, ça c'est sûr.
Exactement. Et ce chiffre, le PIB, qu'on attendait négatif au quatrième trimestre en zone euro, finalement il est positif, ce qui lui donne encore plus de marge de manœuvre.
Ça justifie à 100% le mouvement qu'elle, j'ai tendance à dire qu'elle doit faire, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle paye encore une fois les erreurs du temps qu'elle a mis à monter les premières hausses de taux. Alors certes, il y avait un conflit en Europe, tout ce qu'on veut, on peut donner toujours toutes les excuses, mais malheureusement, on le voit à l'image de la réserve fédérale américaine, qui a été plus rapide, plus forte, et qui aujourd'hui... on voit l'économie américaine est très très forte et très résiliente.
Ouais, mais elle est bien en Europe aussi, l'économie, là, quand même.
Oui,
elle nous surprend.
0,1% de croissance. C'est 0,1. Donc, on ne s'emballe pas non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même... De temps en temps, il faut regarder les chiffres dans leur réalité. Et c'est là où, heureusement, on a une économie qui tient très bien et des entreprises qui sont extrêmement bien gérées. Ça, c'est rassurant. Et c'est très rassurant pour l'investisseur également, puisque aujourd'hui, on a des valorisations qui ont quand même nettement baissé en termes de ratio de rentabilité. On est plutôt conservé, les entreprises ont conservé de la rentabilité, ont réussi à passer les hausses de prix, et ça c'est plutôt très 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 bon signe. Et on le voit, regardez aux États-Unis aussi, une valeur comme Spotify qui augmente ses prix, oui. Résultat exceptionnel, et résultat, le cours de bourse repart à la hausse.
9% en ce moment Spotify à Wall Street.
Exactement. Et ben voilà, c'est typiquement la résilience des entreprises, les entreprises qui arrivent à passer les hausses de prix et qui s'en sortent très bien.
SEB gagne 8% aussi après sa publication. Il vise pour ses marges en 2022 le haut de la fourchette initialement annoncée, donc plutôt de l'optimisme chez SEB. Est-ce que vous sentez que SEB est en train de sortir d'affaires après plusieurs années finalement compliquées en bourse?
Des années compliquées, des marchés fermés, donc des consommateurs finaux qui ne consomment pas. Donc là aujourd'hui, la rouverture mondiale de la consommation, c'est aussi une fenêtre ouverte pour des acteurs comme SEB, donc tant mieux. On est content de voir ces acteurs en profiter. C'est salué par les marchés. Ça fait déjà le trimestre d'avant, on avait été les perspectives sentaient bon, on va dire. Donc là pour le coup, c'est justifié, c'est salué par les marchés, tant mieux. Et ça peut en plus se poursuivre dans l'avenir. Donc c'est voilà des acteurs qu'on peut mettre tranquillement au portefeuille.
Et puis la reprise du tourisme, les Chinois aussi qui peu à peu vont recommencer à voyager, ça booste Elis. Elis qui attend une croissance organique en 2023 de plus de 10% après un chiffre d'affaires déjà record l'an dernier. Elis gagne plus de 2%.
Oui, c'est toute cette thématique réouverture, cette thématique voyage, consommation, tous ces thèmes liés à la réouverture chinoise, liés au tourisme, font que ces acteurs-là revoient un peu des perspectives d'avenir intéressantes et peuvent se projeter beaucoup plus. Alors, il va y avoir un phénomène très fort qui est le phénomène réouverture chinoise qui est aussi très fortement salué par les marchés. Ça ne va pas être une ligne droite non plus. Le consommateur chinois, il va aussi évoluer dans le temps, comme a évolué le consommateur américain ou européen. Les Chinois aussi, à leur façon, vont évoluer et ça ne va pas être non plus un scénario sur lequel il va falloir être trop investi sur le très long terme. Il peut y avoir des rebonds très courts à court terme, c'est bien. Il faut en profiter, parce qu'il faut être présent actuellement sur cette zone-là, profiter de cette réouverture, du surcroît de consommation et des afflux des investisseurs sur cette zone-là. C'est très important de suivre les flux. Et par contre, il faudra peut-être pas forcément, il y aura des à-coups et pas forcément une trajectoire linéaire sur le long terme, on va dire.
Aymeric Guidet, merci beaucoup Aymeric d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business, directeur de la gestion de Pergam et notre CAC 40 qui continue de respirer un tout petit peu après cet incroyable mois de janvier. C'est la dernière séance de janvier aujourd'hui. Le CAC gagne toujours plus de 8,5% depuis le début du mois, le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40. Le CAC fait un peu mieux, c'est vrai, que les autres marchés, y compris européens, grâce au secteur du luxe notamment. Et ce CAC à 7061 points, les marchés américains ont ouvert eux dans le vert après ces publications saluées. Elles sont positives aujourd'hui, les publications américaines. Spotify, on disait, gagne 9%. On a aussi General Motors qui annonce des résultats manifestement prometteurs. Ce titre gagne 6%. On y reviendra. John Plassard sera avec nous en direct dans quelques minutes.
BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée.
Et oui, au milieu de toutes ces publications, une idée de valeur en plus si vous souhaitez diversifier ou compléter vos portefeuilles. Mathias Pecker nous accompagne pour Métis Gestion, dont il est le président. Bonjour Mathias.
Bonjour Guillaume.
On est ravi de vous retrouver Mathias. Vous êtes aujourd'hui à l'achat sur le titre Biocorp.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Biocorp. Alors, basé à Issoire en Auvergne, Biocorp est une medtech française dirigée par son fondateur et premier actionnaire, le serial entrepreneur Jacques Gardette. C'est lui qui, dans les années 90, avait créé la mythique marque de moto, la Vauxhall. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les motards apprécieront. Mais revenons à Biocorp. Biocorp, c'est une société qui développe des dispositifs médicaux connectés, notamment dans le domaine du traitement du diabète, via son capteur Myla, qui transforme un stylo à insuline jetable en un objet connecté. Alors, concrètement, Myla permet aux patients diabétiques qui utilisent des stylos à insuline de collecter et d'enregistrer automatiquement les données relatives à leurs injections quotidiennes, comme le nombre d'unités d'insuline injectées, la date et l'heure d'injection. Ces données sont ensuite automatiquement remontées au médecin traitant, qui peut ainsi suivre son patient en temps réel. Myla s'adresse à une population de 60 millions de patients qui doivent s'injecter de l'insuline tous les jours et permettre ainsi d'améliorer l'observance du traitement. Alors, ça paraît évident, mais un traitement qui ne peut être efficace que s'il est bien pris. Or, en fonction des aires thérapeutiques, on estime que dans 40 à 50% des cas, le traitement n'est pas pris, ou en tout cas pas de façon correcte par le patient. Cette mauvaise observance entraîne des complications graves pour les patients et coûte extrêmement cher au système de santé. Le diabète est également un enjeu de santé publique majeur, notamment aux États-Unis, où l'on estime que plus de 10% de la population est diabétique.
Effectivement. Alors, en décembre dernier, Biocorp a obtenu quand même de la Food and Drug Administration, la FDA, le droit de commercialiser son dispositif Myla aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette décision?
Alors, avec le marquage FDA, Myla devient le premier système approuvé aux États-Unis capable de connecter automatiquement différents types d'insuline. Biocorp a déjà signé des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du diabète, notamment Sanofi et Novo Nordisk. L'approbation FDA de Myla est très positive pour les partenaires de Biocorp, comme Sanofi, qui vend plus de 300 millions de stylos à insuline chaque année et qui va pouvoir, grâce à son partenariat avec Biocorp, se lancer dans la commercialisation d'un stylo jetable connecté. Le dispositif Myla a l'avantage de l'interopérabilité avec différentes plateformes de gestion du diabète, ce qui donne un avantage concurrentiel aux partenaires de Biocorp par rapport à d'autres acteurs comme Eli Lilly qui développe, lui, une solution propriétaire pour son insuline uniquement. Cette autorisation va, selon nous, permettre à Biocorp de monter en puissance et de révéler son plein potentiel. Compte tenu de ces éléments, nous avons un objectif de cours à 12 mois de 35 euros, ce qui donne un potentiel de hausse d'un peu plus de 50% aujourd'hui.
Effectivement, Biocorp, donc achat objectif 35 euros, cette valeur pour diversifier son patrimoine, hein, bien sûr son portefeuille boursier, ne jamais mettre tous ses œufs sur une seule valeur ni sur une seule thématique d'investissement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci,
en direct. Bonne fin de journée, bonne fin de séance. Mathias Pecker pour Métis Gestion. Le CAC 40 en petite baisse, toujours moins 0,2%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et l'on va continuer d'anticiper les publications des entreprises. François Monnier avec nous, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour.
Oula, le son n'a pas l'air top, on va voir. En 2021, François, les entreprises du CAC 40 avaient mis la barre très très haut sur leurs publications, leurs résultats, leurs performances financières. Est-ce que le record de 2021 pourrait être battu dans ces publications de 2022 qui se multiplient?
Oui, Guillaume, le record devrait être battu. C'est vrai que 2021, on avait la barre très très haute parce qu'on était en période de post-Covid et on avait un surplus de consommation, d'activité, de croissance, alors que 2022 se présentait plutôt mal du fait d'un choc inflationniste, hausse des coûts des matières premières, hausse du coût de la masse salariale, hausse du coût de l'énergie, puis également hausse des charges financières liées à des hausses de taux. Et enfin, on avait une guerre en Ukraine qui a généré pas mal de provisions, de déconvenues de la part d'entreprises très présentes dans les pays de l'Est. Mais malgré tout ça, on devrait avoir des bénéfices records qui devraient largement montrer et aller beaucoup plus haut que 2021. Le consensus FactSet vise 170 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises agrégées au sein du CAC 40, contre 130 milliards en 2021, retraités de la cession du MG chez Vivendi. Donc 170 milliards, ce serait un record. Et on a vu déjà les premiers signes qui montrent que les entreprises sont extrêmement dynamiques, voire confiantes. On a eu STMicroelectronics la semaine dernière qui a atteint son objectif de chiffre d'affaires, qui a dégagé des profits supérieurs aux attentes et qui tient toujours un discours optimiste pour 2023. On a eu également LVMH, des bénéfices avec une marge à nouveau record, comme en 2021. Et puis un Louis Vuitton qui dégage un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards et Céline, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, on est parti sur un excellent cru.
Comment on peut expliquer ces nouveaux records attendus et ces bénéfices incroyables, donc anticipés pour ces publications, François?
Mais d'abord, il faut regarder du côté des poids lourds du CAC 40. Hein. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Total, on attend une croissance de son bénéfice de 90% et un bénéfice net de l'ordre de 26 milliards. Et Total, ça représente à peu près la moitié de la croissance des bénéfices des entreprises du CAC 40. Donc Total va bien. Résultat, les entreprises du CAC 40, en tout cas le bénéfice agrégé au regard des pondérations, des capitalisations des entreprises, eh bien ça va plutôt bien. Et quand on regarde juste en dessous de Total, ben là aussi, on a des très bonnes performances. En fait, on a quatre entreprises qui réalisent à peu près, en pondération du poids au sein de l'indice, qui réalisent à peu près les deux tiers des bénéfices des entreprises du CAC 40. Ces quatre entreprises, ben c'est Total Energy, c'est LVMH, Sanofi et BNP. Et ces entreprises vont plutôt bien. Donc, le risque de déconvenu me paraît aujourd'hui extrêmement faible, d'autant que le quatrième trimestre a été quand même plutôt dynamique.
Et pour 2023, pour cette année qui s'ouvre, à quel discours faut-il s'attendre de la part des dirigeants des entreprises françaises?
Là, on a un petit peu la réponse quand on voit l'évolution du CAC 40 depuis le début de l'année, puisqu'on est sur un gain de près de 8,5%, donc un excellent cru, un excellent démarrage. Eh bien, on devrait avoir un discours optimiste de la part des entreprises pour trois raisons. La première, c'est qu'on assiste à un vrai reflux des prix de l'énergie, c'est un vrai souci. Et là, on a des discours qui sont extrêmement rassurants. Le cours du pétrole a reculé de 16% en l'espace de 6 mois. Et donc, c'est bien sûr un gage de confiance pour les semaines à venir, en tout cas, voire même les mois à venir. On a la réouverture de la Chine. Ça va créer, bien sûr, un surplus de croissance en Asie. Et puis, on parle de moins en moins de récession dans l'espace européen. Et ça, bien sûr, c'est un discours qui va être relayé de la part des dirigeants. Donc, on devrait avoir plutôt des discours optimistes, alors qu'il y a quelques mois, on aurait pu s'imaginer qu'on aurait beaucoup de craintes ou d'absence de ou de dirigeants qui nous diraient ben, « j'ai pas beaucoup de visibilité ». Là, on devrait plutôt avoir des messages de confiance.
Du coup, ceux qui décevront, les entreprises qui pourraient annoncer des résultats ou des perspectives inférieures aux attentes, seront-ils lourdement sanctionnés? On verra. En tout cas, c'est vrai qu'après une telle hausse depuis quelques mois des marchés, ces entreprises-là pourraient se trouver fragilisées. Quelles entreprises pourraient décevoir d'après vous?
Ben, là, il y a des entreprises qui peuvent décevoir parce qu'elles ont fait finalement un excellent cru 2022, essentiellement lié au pricing power. Elles ont augmenté leur prix, mais on devrait plutôt avoir des déconvenues en matière de volume. Et là, on peut avoir des déconvenues, par exemple, chez Danone. Danone, on le sait et on le voit dans le domaine des produits laitiers en Europe. Danone a des volumes en berne. Ils sont en train de perdre des parts de marché parce qu'ils essaient de réorganiser leur gamme, avoir moins de produits à proposer pour développer, pour favoriser la marge. Mais ça devrait peser quand même sur le chiffre d'affaires et ça pourrait générer quand même quelques inquiétudes auprès des investisseurs. Deuxième entreprise, j'ai envie de dire à risque, c'est Legrand. Legrand, c'est un peu le même symptôme que Danone. Hausse de prix, donc l'effet prix a porté le titre, a porté le discours du management. Mais là, les volumes devraient être en berne, d'autant que ben, Legrand, ils sont très exposés bien à la construction. Et donc, le marché résidentiel, aujourd'hui, il est un petit peu déprimé parce que, bien sûr, la hausse des taux fait que eh bien, les Français, voire l'ensemble des personnes qui veulent se loger, ben, elles hésitent un petit peu, elles retardent un petit peu leur processus d'acquisition parce que ben, les frais financiers, ça coûte un peu plus cher.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en direct. François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir sur les publications des entreprises. Bonne fin de séance. François, le CAC 40 est toujours en très très légère baisse. On piétine un petit peu aujourd'hui en Europe. L'Eurostock 50 aussi perd à peine 0,1%. On préserve vraiment les gains de ce mois incroyable de janvier, un mois estival en bourse. Le CAC 40 signe son meilleur début d'année de l'histoire. Ça se confirme encore aujourd'hui. Notez qu'UniCredit a publié des résultats records. Résultats, tout le secteur bancaire est porté. Société Générale gagne 2% aujourd'hui. Plus forte hausse du CAC 40. On a également parmi les progressions du jour, tiens, le secteur automobile. Alors aux États-Unis, on a des bonnes surprises. General Motors notamment qui gagne 7% sur le marché américain. Dans les publications du jour, il y a une autre star, Spotify, gagne plus de 7,5%. Sa capacité à également relever ses tarifs et qui plaît au marché, à monétiser de plus en plus. Qui plaît au marché, ce titre Spotify donc signe une des plus fortes hausses du jour. On va en parler dans un instant avec John Plassard. Il sera en direct avec nous. On rejoindra aussi depuis la tour Euronext, Aude Kersulek. On se retrouve dans moins de 2 minutes. Tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.